bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Dans cette émission, je vous offre accompagné d'un invité le décryptage d'une thématique pour mieux comprendre et anticiper les bouleversements de notre industrie. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. On est aujourd'hui dans un News and Analysis avec Viviane Lipski, que vous connaissez tous, mais bon, je vous la présente quand même. Viviane, c'est la fondatrice de Brand Alchimie. Elle est l'experte DNVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Elle est également l'autrice des DNVB, les surdoués du commerce digital. Salut Viviane.
Salut Adrien, bonjour, comment vas-tu dans cette époque troublée ?
Exactement. Bah écoute, moi ça va. Et tu introduis déjà le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais parler avec toi de comment est-ce qu'on communique dans cette période extrêmement troublée. On sort du Covid-19. Il y a cette actualité brûlante avec les violences policières aux États-Unis qui arrive aussi en France et qui est déjà en France. Comment est-ce qu'on communique quand on est une marque sans perdre la tête, sans parler de tous les sujets, sans se perdre, etc. Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Et où est-ce qu'on met le curseur, en fait ? Est-ce que c'est le rôle des marques de prendre la parole sur tous les sujets ? Voilà, moi, j'avais besoin de toi pour y voir un petit peu plus clair, parce que je trouve que notre époque, et ça va s'accélérer malheureusement, hein, je pense que des problèmes sociaux comme ça, on va en avoir de plus en plus. Comment est-ce qu'on communique et comment on se perd pas, quoi ?
Ouais, c'est un sujet vraiment chaud, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté dans ce DNVB News Analysis, parce que toute l'actualité, évidemment, quand on regarde les médias sociaux, effectivement, c'est une espèce de surenchère, comme tu disais. Et c'est un exercice qui est particulièrement difficile, parce que tu dois communiquer à la fois vis-à-vis de tes clients et tu dois aussi communiquer en tant que marque employeur. Ça, c'est quand même une nouveauté, hein, qu'on n'avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément pris le pli auparavant. Et c'est vrai que c'est une actualité aussi, et si on doit en parler, c'est parce que c'est aussi une actualité qui touche les DNVB très fortement. On avait parlé plusieurs fois de Reformation, qui est cette DNVB créée par Yael Aflalo, qui est connue pour son modèle, pour son approche qui est à la fois éthique et durable, qu'elle a appliquée à la fast fashion. C'est une marque qui est très appréciée, très populaire, qui a été acquise par le groupe Permira l'année dernière pour 37 millions de dollars. Et la PDG, malgré tout ça, qui avait mis l'ultra transparence à tous les niveaux de sa supply chain et de son discours, et qui d'ailleurs qui s'est quasiment jamais exprimée en public, eh bien, elle a été prise à partie par une de ses collaboratrices et poussée à la démission avec des accusations de racisme graves qu'elle n'a pas nié d'ailleurs, puisque elle avait il y a quelque temps dit que sa marque n'était pas prête à présenter des modèles noirs et que elle a été accusée aussi en interne d'avoir une politique qui n'était pas tolérante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est d'un côté Reformation. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, on a Glossier, qui encore une fois a montré sa capacité. Emily Weiss, la fondatrice de Glossier, donc la DNVB de cosmétiques, je ne présente plus, encore une fois a pris la parole de manière exemplaire. Alors je dis encore une fois parce que pendant le Covid, ça a été vraiment une marque qui a su s'emparer de l'air du temps, comprendre son public, comprendre les gens. Et quand on dit que c'est une marque customer-centrique, ça s'est vraiment senti, c'est-à-dire que elle a adapté son discours, à l'évolution de ce qu'on a tous connu en fait en termes de d'abord de sidération et puis d'acceptation, etc., puis de fun, Donc ça, c'est vraiment une fille qui comprend son public, qui comprend l'air du temps. Et ça a été une des premières à Glossier est la marque inclusive. Hein, c'est vraiment la marque qui a fait descendre la cosmétique de son piédestal pour mettre tous les clients au centre. Et donc, elle a réagi super vite, là, dès le 30 mai, elle a fait un don de 1 million de dollars à plusieurs organisations, dont Black Lives Matter, et à des fonds d'éducation. Et il y a peu de temps, là, je crois, il y a quelques jours, elle a même annoncé qu'elle a loué un montant supplémentaire pour subventionner des entreprises de beauté appartenant à des entrepreneuses noires. D'ailleurs, c'était long, loin. Vous pourrez regarder sur son Insta. Elle a partagé toutes ses initiatives sur le blog de la marque aussi. Et elle a écrit « Chez Glossier, nous voulons changer la façon dont le monde voit la beauté et changer la façon dont et commencer à changer ce monde-là, c'est changer l'industrie de la beauté elle-même. Elle dit qu'elle est une des rares entreprises à avoir été fondée par une femme et à mobiliser du capital risque en 2014. Et elle rappelle que cette année-là, il n'y a que 3,1% des fonds qui sont allés à des femmes. Et elle est consciente qu'être en plus une femme noire, que si elle était une femme noire, elle n'aurait probablement pas reçu ce soutien. Alors que les consommateurs noirs détiennent un énorme pouvoir d'achat. Hein, puisque on n'est plus sur une minorité, hein, comme je le rappelle, aux États-Unis, on va passer bientôt dans une majorité. Donc elle subventionne ces entreprises et elle partage ce qu'elle a appris. Donc allez voir sur son Instagram et sur son site. Donc il y a cette polarité dans laquelle sont prises les DNVB et en fait ce qu'on remarque, qui est tout à fait nouveau pour revenir à ta question de comment on communique, il faut d'abord analyser les faits et la manière dont les uns et les autres ont communiqué aux États-Unis puisque ça se passe d'abord là-bas. Écoute, donc on a eu ces enchaînements de décès liés à des brutalités policières, George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, etc. Enfin, des centaines en fait qui ont déclenché donc ces manifestations qui sont pas récentes. Hein, les violences policières envers les Afro-Américains sont pas récentes. Mais ce qui est nouveau, c'est que aujourd'hui, les consommateurs, qui sont des citoyens, qui se manifestent comme citoyens, se manifestent aussi comme les employés des entreprises. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi. Et en tant qu'employé d'entreprise, en tant que consommateur et citoyen, donc sur les trois plans, ils demandent à ce que le traitement des personnes de couleur qui travaillent dans les entreprises et font ces achats, elles demandent aux entreprises d'assumer leurs responsabilités et de jouer un rôle pour arrêter la perpétuation du racisme et des inégalités aux États-Unis. Et donc, elles réclament des comptes aux entreprises et réclament un alignement parfait entre les valeurs proclamées, la communication et les comportements internes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et à ce moment-là, je pense que certaines DNVB, parce que je dis DNVB parce que on le sait, ça fait partie des marques qui sont les plus mission brand, qui clament leurs valeurs en fait pour aller chercher le client. Hein, quelque part, si on veut pas que ce soit que du marketing, il faut vraiment être aligné. Et c'est à ce moment-là qu'elles réalisent le pacte qu'elles ont conclu avec leurs clients. Tu te souviens, on avait parlé en février déjà de culture d'entreprise avec Everlane et Away, qui est dans la tourmente. Bon, eh bien, voilà. En fait, là, ça ne fait que monter en puissance. Tu vois, quand les DNVB adoptent un ensemble de valeurs larges, finalement, je dis pourquoi un pacte, parce que ça les rend aussi vulnérables aux critiques quand les consommateurs constatent qu'elles ne sont pas à la hauteur.
Et du coup, c'est clair, c'est hyper dangereux.
Les représailles des employés sont dingues. Et il suffit d'un employé qui écrive sur son compte Instagram, et c'est fusible, tu vois. Et là, on s'en rend vraiment compte. On se rend compte qu'on peut plus faire vraiment n'importe quoi. Alors évidemment, c'est pas un sujet qui est typiquement DNVB, parce que je sais pas si tu as suivi, mais ne serait-ce que dans la mode, il y a eu des démissions, mais en pagaille, et puis des démissions, moi, qui m'ont frappé, parce que The Wing, la directrice de The Wing, c'est un espace de coworking féminin, Jen Gotch, qui a démissionné, Leandra Medine de Man Repeller. C'est dingue. Christiane Barberich, la fondatrice et rédactrice en chef mondiale de Refinery 29. Anna Wintour qui s'est excusée que US Vogue n'ait pas toujours été et pu avoir des
à la hauteur,
ou déclarations blessantes, intolérantes vis-à-vis des Noirs. Je ne sais pas si tu as suivi aussi, mais la publication de L'Oréal, Prendre la parole en vaut la peine, et le mannequin Monroe Bergdorf, qui est un mannequin transgenre qui avait travaillé pour L'Oréal au UK. Et en 2017, elle avait publié un super long post sur Facebook en condamnant le racisme et la violence des suprématistes blancs qui manifestaient à Charlottesville, en Virginie. Et elle a été licenciée pour ce message, sous prétexte que ses commentaires étaient contraires aux valeurs de la marque, je ne sais pas si tu vois, hein, qui prenait la diversité, la tolérance, sans distinction de race, d'origine, de sexe ou de religion. Ben, finalement, aujourd'hui, L'Oréal, non seulement a affiché son soutien à Monroe Bergdorf, mais en plus, réintroduite dans son organigramme. Je ne sais pas si tu avais lu, j'avais retrouvé son message de l'époque. Elle avait écrit « Excusez mon langage, mais je suis tellement en colère, va te faire foutre L'Oréal Paris. Vous m'avez laissé tomber lors d'une campagne en 2017 et vous m'avez jeté au loup pour avoir parlé du racisme et de la suprématie blanche sans aucune précaution, sans hésitation. » Et elle dit dans un autre message « Va te faire foutre avec ta solidarité. Où était votre soutien lorsque j'ai pris la parole ?» Et elle dit qu'elle ne laissera pas L'Oréal s'en tirer comme ça. Donc, voilà, les temps ont changé. Les temps ont vraiment changé. Et ce que les consommateurs attendent désormais des marques, c'est qu'elles partagent leurs valeurs sur tout. Ça aussi, c'est
absolument
nouveau.
Tout. Ouais.
Tout. La durabilité, les droits des travailleurs, la justice raciale. Et qu'elles regardent comment cette solidarité va s'appliquer dans le fonctionnement des entreprises. Alors là, on a vu aussi en pagaille des organigrammes, des comex, de Adidas, de Nike, de toute la mode, tous les organigrammes de tous les gens qui prennent la parole dans les grandes boîtes, pour constater quoi au final ? Ben, que ces gens s'expriment effectivement sur des sujets de racisme, mais qu'en interne, les comex sont vraiment très caucasien et vraiment très masculin et vraiment très plus de 50 ans. J'ai rien compris, 50 ans,
boomers,
donc c'est ouais. Parti. Mais bon,
exactement.
En fait, les gens regardent les entreprises comme s'ils considéraient qu'elles devaient être des contributeurs à un monde meilleur. Mais c'est un peu ce qu'on leur a promis en tant que DNVB. C'est ce qu'on leur promet. Donc, En ayant ce discours des NVB, nos consommateurs deviennent des militants qui poussent les marques à de nouvelles normes et à aborder toute forme de problème en prenant la parole sur les médias sociaux. Et les marques se retrouvent à devoir rendre des comptes plus que jamais et à devoir publier leurs chiffres, et même une marque comme Glossier a publié ses chiffres de ses collaborateurs, le nombre de collaborateurs en pourcentage, etc. et doivent s'engager à faire mieux. Dans le passé, les entreprises, elles considéraient vraiment que prendre la parole sur ce genre de sujet controversé, c'était contraire à la gestion de l'entreprise. Mais ouais, maintenant, ouais. L'inverse est vrai. Ne pas prendre la parole, c'est un problème. Donc, on en revient à est-ce que je dois prendre la parole pour tout ? Je vends des chaussures. Est-ce que je dois, prendre la parole sur tout ? Et il y a un prof de marketing que j'aime bien à l'université de New York, à la Stern School of Business, qui s'appelle Tulin Erdem, et qui dit mais c'est plutôt, je pense, très américain comme façon de penser quand même. Les grandes entreprises sont devenues puissantes et qu'elles façonnent la politique aux États-Unis. Quand il parle des grandes entreprises, il parle aussi évidemment des Google et Facebook, hein. Et la jeune génération veut que ces entreprises fassent quelque chose, parce que les consommateurs sont à la recherche d'un leadership moral, ou en tout cas d'une prise de responsabilité plus large des marques, parce que on a perdu confiance dans le pouvoir des grandes institutions sociales, politiques, et qu'on demande aux entreprises de combler le vide.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, les entreprises prennent la place des politiques, quoi. Enfin, c'est ce qu'on attend de maintenant. C'est ce qu'on attend d'elles.
C'est ce qu'on attend d'elles. Alors, ceci étant dit, voilà le schéma général, global. Ce qui est intéressant, parce que là, on parle des États-Unis et on n'est pas les États-Unis. Et comme tu le disais, ça ne résout pas le problème de est-ce qu'on doit prendre la parole. Les consommateurs, je veux dire que si on est une NVB, évidemment qu'on va devoir prendre la parole, mais est-ce qu'on doit prendre la parole sur tout, tout le temps ? Alors, moi, je me suis interrogée, si on transposait à la France, qu'est-ce que ça donnerait et comment ont réagi les DNVB dans ce moment-là? Alors, je ne les ai pas toutes interrogées, mais j'ai quand même eu envie d'aller voir un peu ce qui se passait. Surtout que ce qui m'a un peu interpellée, c'est que j'ai pas l'impression qu'en France, on ait énormément de DNVB qui soient fondés par des personnes qui soient pas, qui soient issues de parcours différents, de nationalités vraiment très différentes, d'origines différentes. Et dans les staffs, je me suis pas rappelée, tu vois, mais pas sauté à la figure d'avoir des staffs, à part quelques exceptions, très mosaïque, tu vois. Et je pense que en France, il y a deux questions qui se posent. En tout cas, c'est les questions que j'ai voulu poser à ces fondateurs de DNVB. C'est finalement quelle attitude à tenir quand on est une entreprise face aux violences policières et finalement un événement politique sensible qui dépasse le cadre de la sustainability, l'environnement ou les feux de forêt en Australie, tu vois. Une question qui nous touche chacun en tant qu'individu et citoyen, parce que l'entreprise doit réagir à ce moment-là. Et donc, le corollaire, la question du racisme et de toute forme d'exclusion. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est celle de la culture d'entreprise et du recrutement. Alors, pour ce faire, j'ai interrogé Alexandre Leboucher, qui est le CMO de Airpure, que tu connais peut-être. Donc, Airpure, c'est...
J'ai pas entendu, Arthur.
Alexandre Leboucher, qui est chez Airpure, Air-Pure. Les masques
mobilisent
à vélo, les masques avec des filtres à particules super d'ailleurs, à moto, à vélo, etc. Et qui est forcément appelé à se développer, une marque qui est forcément appelée à se développer, puisque la question de l'air et la question du port du masque, ça y est, c'est rentré en quelques mois dans nos habitudes de vie. J'ai forcément interrogé Ning Li, qui est le fondateur de Typology, la marque de cosmétiques, parce que en soi, c'est déjà tout un parcours. Je n'avais pas fait le rapprochement de pourquoi je voulais interroger Ali Sager, qui est la directrice de la marque de Mad.com. Et puis après, m'est venu évidemment que c'est Mad avait été cofondé par Ning, et que donc du coup, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui restait de l'état d'esprit que Ning avait pu y instaurer. Et puis j'ai interrogé Geoffrey Bruyère chez Bonne Gueule. Sur ces deux questions. J'ai interrogé Ning d'abord sur les DNVB, qui portent l'inclusivité et la diversité dans leur discours marketing et dans leur culture d'entreprise, et qui ne sont pas si nombreuses. Pour connaître les équipes de typologie, c'est vraiment dans le fond et dans la forme là-bas. Ce que je voulais savoir, c'est si c'était quelque chose que Ning cultivait ou si c'était induit. Donc Ning, il est chinois, il est venu vivre en France après avoir vécu en Angleterre. Sa femme est iranienne, et donc pour lui, la diversité, c'est pas une question, c'est un fait. C'est ce qu'il m'a dit, c'est un fait de vie, et ça se traduit naturellement dans le recrutement et dans sa culture d'entreprise. Donc typologie, c'est 28 personnes, 14 nationalités, toutes les ethnicités, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles possibles. Donc, pour lui, Black Lives Matter, c'était pas un sujet, parce qu'il a toujours vécu la diversité au fond de lui, et que son entreprise est le reflet de qui il est. Donc, ça se ressent dans la marque et dans le recrutement. Mais il dit...
Juste la question, c'est est-ce qu'il l'a fait en toute conscience? Son recrutement, etc., est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il s'est forcé à le faire, ou est-ce que ça s'est fait naturellement sans avoir à y penser?
Tu vas voir, ça s'est fait naturellement. Je vais venir, je voudrais respecter juste l'ordre de l'interview, parce que je veux surtout pas sortir ses propos du contexte.
Bien sûr.
Et vraiment, c'est des sujets trop importants, trop graves, et là, je porte le discours en fait qu'il m'a donné. Donc, c'est une promesse que je leur ai fait de pas sortir le discours du contexte. Donc, si on reprend dans l'ordre, mais je vais vraiment répondre à ta question, puisque évidemment, c'est ça le sujet. Sur la question du racisme, en fait, aux USA, je pense que dans le déroulé de sa, c'est bien de garder le déroulé de sa pensée, en fait.
Vas-y.
En fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a à la fois le racisme. Il dit ça, c'est totalement antinomique avec qui nous sommes. Et sur ce sujet, on prend une position forte. Mais la violence policière aux USA, c'est un autre sujet sur lequel on ne veut pas prendre position. Parce que, de son point de vue, c'est plus personnel et c'est lié à la liberté de port d'armes et à une police qui est du coup beaucoup plus sur les nerfs et beaucoup plus sensible et un problème beaucoup plus grave aux USA. C'est son point de vue, d'accord? Mais, de son point de vue, les marques doivent prendre la parole dans l'espace public. C'est une nécessité. Quand on est une marque implantée aux États-Unis, aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas ne pas réagir à ce qui se passe. C'est le sens de l'histoire, dit-il. Et quand il dit, quand il dit que s'il avait été une marque américaine, il aurait réagi différemment. Mais, attention, quand on prend la parole, et c'est là que c'est vraiment important, quand on est une marque comme Nike ou Adidas, qu'on a pris le leadership aujourd'hui, il dit attention, il ne faut pas prendre la parole pour suivre une tendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la prise de parole dépend de la mission des marques. Ça, tu vas voir, ils sont tous d'accord là-dessus. Toutes les marques ne sont pas légitimes à prendre la parole sur tous les sujets. Si ta marque parle d'inclusivité, si ça fait partie de son ADN comme Glossier, et si le sujet le touche, oui. Mais toutes les marques n'ont pas vocation à être inclusives. Intéressant, il me dit, le luxe en premier n'est pas inclusive. Et c'est vrai, dans le luxe, on parle d'exclusivité. On est bien d'accord. Et pas d'exclusivité de la parole, du produit, et d'exclusivité aussi par l'argent, quelque part. D'accord ? Alors, bon, quand j'ai parlé de ça à Benoît Vostanka, je fais tout de suite la parenthèse, il m'a dit oui, mais en même temps, ça fait des années et des années qu'on demande à la mode d'être plus inclusive, donc si elle essaye de l'être, on va pas le lui reprocher non plus. Bon. Donc là-dessus, mais il y a quand même un sujet. Donc, selon Ning, les marques qui prennent la parole en disant tous ensemble et qui ont des conseils d'administration, comme on le disait, qui sont masculins, blancs, etc., c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux qu'ils soient dans l'action. Voilà, il vaut mieux être dans l'action, dans la communication, parce que les consommateurs sont smart et vont le voir. Et si t'es pas prêt à suivre les conseils que tu prêches, évite de gueuler sur les toits. Ça fait qu'attirer l'attention sur qui tu es et c'est pas cohérent. Donc du coup, je lui ai demandé, bon bah alors comment tu fais effectivement pour recruter, pour avoir cette diversité, est-ce que tu l'écris, est-ce que... Et là, sa réponse est vraiment intéressante parce qu'il me dit, voilà, son expérience à Londres avec Mad.co est vraiment différente. Londres, c'est une ville d'expats, c'est une ville beaucoup plus cosmopolite que Paris, les gens ils parlent anglais, et lui, par nécessité, il avait... Et ça, c'est vraiment un sujet, je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, j'invite nos auditeurs à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire de ton entreprise? Est-ce que tu veux une entreprise franco-française qui ne vend qu'en France ou est-ce que tu vises une entreprise à l'international? Lui, en tête, il avait envie de vendre partout dans le monde. Donc, il était basé à Londres, mais il vendait dans 14 pays. Donc, forcément, déjà, il fallait recruter des talents qui viennent de ces pays. Et en plus, il travaille dans le même bureau pour adresser ses marchés. Ce qu'il me dit, c'est que dans les industries créatives, est-ce que tu as des difficultés à recruter? Non, dans les industries créatives, il y a une surpondération des parcours différents. Et lui, ce qu'il pense, c'est que quand on grandit avec plusieurs cultures, on a tendance à être plus créatif. Mais il y a quand même dans son recrutement, donc ça, c'est un biais en fait de recrutement déjà. Il a ce mindset-là. Et donc, pas besoin de l'écrire selon lui. Avoir des parcours différents est une nécessité dans une entreprise qui vise à être, avoir une expansion internationale et avoir un mindset de parcours différent. Selon lui, les entreprises qui écrivent la nécessité de la diversité, c'est souvent que c'est pas dans leur ADN, c'est qu'elles en ont besoin de l'exprimer à côté parce qu'il y a eu un souci, tu vois. Alors, lui, il dit qu'à Londres, 99% des entrepreneurs ont des nationalités différentes et qu'il y a énormément de licornes qui ont été créées par des entrepreneurs immigrés. Et il a vraiment la perception que là-bas, tout le monde a ses chances et que c'est une génération d'immigrants qui réussit très bien. Mais quand il est arrivé en France, là, il y a eu un souci quand même parce que construire une boîte qui a un environnement multiculturel et qu'il ne soit pas un franco-française école de commerce, il a quand même vu le risque, à cause du critère de la langue en particulier, et parce qu'en France, selon lui, les profils cosmopolites sont plus rares. Alors, sur son recrutement, lui, il n'a pas besoin d'aller... il a la chance, quand ils mettent une offre dans LinkedIn, ils ont un poste, 500 à 1000 candidats qui réagissent. Donc, c'est même pas un sujet. Il y a tellement un engouement pour typologie qu'il y a juste à sélectionner parmi les profils. Néanmoins, il applique donc trois valeurs qui sont trois critères de comportement. Il regarde peu l'expérience, il regarde le comportement au travers de trois filtres qui sont open mind, doer plutôt que thinker et extra miles. Alors, open mind, c'est-à-dire que plus le comportement que la technicité ou la personnalité. Donc il me dit, le filtre, c'est pas l'origine ethnique, mais il cherche des gens qui sont ouverts d'esprit, capables de s'autocritiquer, autonomes, et par conséquent, il recrute des gens qui ont des parcours différents. Et quand il me dit qu'il recrute des gens qui ont des parcours différents, et ça, je l'ai retrouvé chez mat.com, c'est pas les traces écrites, quoi. C'est pas des diplômes internationaux, etc. C'est plutôt des voyages et une manière de voir le monde. OK ? Doer plutôt que thinker, ça, on comprend très bien. Et extra mile, ça veut dire c'est des gros bosseurs, des gens autonomes, des gens qui proposent plus. Et donc, selon lui, ce qu'il faut vraiment chercher, c'est à éviter de reproduire des entre-soi, parce que c'est plus facile de reproduire des entre-soi. Et on confond souvent deux choses quand on recrute. Évidemment, il faut qu'on ait des valeurs. Ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont des valeurs en commun et qui aient une vision du monde commune. Mais il ne faut pas le confondre avec la diversité des talents. Donc, on doit partager un socle, mais on doit diversifier les talents autour de ce socle. Quand on dit des gens qui nous ressemblent, même parcours, même valeur, même vision du monde, c'est bien. Mais la diversité de talents, c'est ce qu'on doit privilégier si on veut grossir, faire une boîte innovante et créative. Et là, tu penses, il m'a réjoui au plus haut point parce que je venais de lire une étude McKinsey qui disait que les entreprises les plus performantes financièrement et en termes de R&D sont celles qui privilégient la diversité des talents. Pas d'ethnie, mais des talents et des parcours. Tu vois, on mettra le lien de cette étude si quelqu'un est intéressé. Donc, naturellement, j'ai eu envie de. Donc, après, j'avais déjà demandé à Alice si je pouvais l'interviewer, mais pour faire le lien, j'ai dit, bon, alors, du coup, chez MAD, est-ce qu'on ressent cet héritage de l'état d'esprit de Ning, ou est-ce que, du coup, on a une culture qui s'est, comme après son départ, comment ça s'est passé? Alors, déjà, Alice Sager, elle est directrice de la marque MAD.com. Elle est mariée à un Anglais. Donc, elle m'a dit, déjà, entre nous, on parle des différences culturelles entre les deux pays. Et elle me disait que son mari lui expliquait, par exemple, qu'en Angleterre, tu pouvais être policier sikh et donc porter ton turban avec ton uniforme, et que ça n'arrivera jamais en France à cause des lois sur la séparation de l'État et la laïcité. Et depuis qu'elle est chez MAD, elle comprend mieux ça. Elle comprend mieux ce que son mari lui disait. Parce que elle me dit, à son arrivée, elle s'est pas dit c'est une boîte anglaise, elle s'est dit c'est une boîte internationale et tout le monde vient de partout. Les gens ont des origines différentes, ils parlent plusieurs langues, aussi bien au siège que dans les différents pays. Parmi ses homologues, par exemple, pareil, elle a aux Pays-Bas, la directrice de la marque, elle vient des Caraïbes, en Allemagne, elle vient d'Ukraine, etc. Et elle a grandi aux USA. Et elle me dit, tout part de la tête. C'est parce que Ning a cofondé la boîte, il a laissé son empreinte. Et c'est massivement poussé par le management en Angleterre. Et ils sont comme ça. Il n'y a pas de sujet sur d'où tu viens, mais plutôt comment tu te comportes. Et c'est naturel d'être multiculturel. Par contre, ce qu'elle dit, c'est que quand la boîte a grandi et que justement les fondateurs sont partis ou qu'ils ne s'occupent plus directement du recrutement, il vaut mieux écrire ça dans la culture d'entreprise et pour garantir une mixité des parcours et éviter l'entre-soi. Elle me dit, l'entre-soi, c'est dangereux. Quand tu as des gens qui viennent de partout, ça évite toute forme de concurrence parce que chacun a vécu des choses différentes et par respect et par égard pour l'autre, personne ne se compare à l'autre. Et à partir de là, sur chaque sujet, tu sais que tes collègues peuvent t'apprendre quelque chose. Et Alice, elle plébiscite les collaborateurs au parcours très différent, ceux qui cochent pas toutes les cases sur les parcours comme il faut, tu vois, mais qui sont restés, elle dit, faut pas rester concentré sur soi-même et être ethnocentré. Et chez Matt, par exemple, elle est la seule à avoir fait de la pub et les autres, ils viennent de la presse, de la mode, et chacun est complètement différent. Et chacun amène sa propre lecture, et la mise en commun des différentes lectures est très riche. Et c'est comme ça qu'elle décrit une entreprise apprenante. Ça la rend en plus très attractive pour les collaborateurs, cette ouverture, ce cosmopolitisme à l'anglaise, ce vrai mélange. Et elle, qui est passée par des grandes boîtes françaises à l'international, elle fait la nuance, elle me dit, c'est des grandes boîtes internationales, mais les collaborateurs, ils sont français et ils sortent des mêmes écoles. Tout le monde a grandi dans les mêmes catégories socio-professionnelles et au final, c'est consanguin. Chez MAD, c'est différent. Des cultures, des profils différents qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Et du point de vue de la marque employeur, ça a un impact énorme. Et ça a un impact aussi sur la manière dont elle réfléchit le rayonnement de la marque à l'extérieur. Elle me dit, quand je réfléchis l'approche des marques, que ce soit en termes de partenariat ou de campagne de pub, tout part de qui on est, de notre communauté et de refléter qui on est. Donc, par exemple, les derniers visages de ces campagnes de pub, sur chacun des marchés différents, hein, 14 marchés, elle a choisi des gens qui sont très différents, qui sont hors catégorie, design. Elle me citait Coucou les girls, Juliette Katz, je ne sais pas si tu connais. Au UK, une femme tatoueur, une mère célib, un couple de mecs en Allemagne, une journaliste TV moitié iranienne, etc. Et donc, elle me dit c'est hyper cohérent parce que ça part de notre culture. Néanmoins, écrire, ça permet de poser les choses. Et si c'est déjà acté, et quand la boîte a suffisamment grandi, c'est bien de rappeler aussi. C'est pas mal de se rappeler les choses. Et de les relire. Elle me dit, quand t'es dans un Boeing, et on comprend bien cette image de Boeing, hein, quand t'es une boîte, ben voilà, c'est bien d'avoir un document socle. Après, je lui ai demandé comment elle prenait la parole aussi dans un moment sensible. Et là, ben, ça rejoint ce que disait Ning. Elle a pas pris la parole, en fait. Elle m'a dit, on se sentait pas légitime chez MAD d'aller sur un terrain politique parce qu'on est nous, on est une boîte de déco et de design. Alors, bien sûr, on a un point de vue sur l'inclusivité. Et c'est un point de vue d'ailleurs qu'elle travaille avec sa RH de longue haleine. C'est pas des événements qui lui font travailler comment on travaille la politique d'inclusivité dans sa boîte. Ils mettent en place des tonnes de choses. Par exemple, ils ont travaillé sur le congé paternité, qui est aussi une manière d'inclure les hommes dans les hommes, de penser à tout dans ce monde qui est le nôtre. Mmh. Et sur le sujet Black Lives Matter, ils se sont demandé hein, si c'était une bonne idée. Et finalement, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu te rappelles, Ning a dit faut pas gueuler avec la meute, elle a dit faut pas rajouter du bruit au bruit. On ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais ils ont été interpellés par des clients, évidemment.
Bien sûr.
Directement. Et à chaque fois, ils ont pris le temps d'expliquer pourquoi ils ne clamaient pas haut et fort une position anti-raciste. Et ça va rejoindre ce que va dire Benoît aussi, Voshtanka, chez Bonne Gueule. Alors, elle leur dit, bien sûr, à titre perso, on a envie de réagir, mais en tant que marque, il faut faire attention. On peut pas être parfait en tant que marque. Le risque, c'est de s'engouffrer sur un terrain qui n'est pas le tien. Et ça, on l'a vu, c'est un vrai risque quand t'es une DNVB parce que tu dois donner des comptes après. Donc, le jour du Black Tuesday, ils ont cessé de publier, ils sont restés silencieux. Ils ont répondu à tout le monde, ils ont montré comment ils bossaient sur ces sujets d'inclusivité au long cours, en montrant sous quel angle, mais en évitant de prendre la parole sous un prétexte marketing. Voilà, pour eux, c'est dangereux. Et c'est malsain. Et elle m'a cité l'exemple de Louis Vuitton qui, juste après Black Tuesday, a mis que des mannequins noirs sur son compte Instagram et elle trouve ça... chacun en pensera ce qu'il veut en penser. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi...
Je rebondis là-dessus parce que c'est marrant. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Peu importe. Et il me disait... c'est une personne qui doit être un peu introduite dans la mode et qui disait en fait la prochaine campagne de Céline c'était deux mannequins black et ils ont décidé d'annuler cette campagne parce qu'ils se disaient non on va se faire défoncer on va nous traiter d'opportunistes etc. Donc ils ont dû annuler cette campagne pour ne pas tomber dans la caricature.
C'est malsain, c'est vraiment malsain de prendre la parole de cette manière. Tu vois, c'est vrai qu'on sait très bien que les marques de luxe se servent de la culture hip-hop, black, etc. pour vendre. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es droit dans tes bottes en tant que marque? Est-ce que tu es là où tu dois être par rapport aux employés, par rapport à ta marque et pour le reste? Si c'est pas le cas, tu prends pas la parole. Il faut vraiment quand même être super cohérent, prendre la parole à bon escient. Et quand tu la prends, c'est pour être du côté de tes clients et apporter quelque chose, de mon point de vue, tu vois. Chacun pensera ce qu'il en veut. Ses propos n'engagent que moi. Mais pour moi, c'est ton engagement, tu dois le tenir et tu dois en débattre. Ce que disait Alice, hyper intéressant, c'est que voilà, si vraiment c'est ton engagement, forcément t'es pas parfait, aucune marque n'est parfaite, et aucun de nous en tant qu'être humain ne sommes parfaits. Mais ne refuse pas d'en débattre si c'est ton ADN, et fais tout le chemin pour t'améliorer, fais des tout petits pas, mais avance. Voilà, ça c'est le conseil d'Alice, c'est son tips. Bon, bah, je vais enchaîner avec, avec Benoît. Bon, je t'en prie, de bonne gueule, parce que tu vois, je trouve que les points de vue des uns et des autres, en fait, sont évidemment c'est presque similaire, mais chaque point de vue renforce l'autre, complète, et nous aide chacun à nous faire notre propre idée. Parce que évidemment, il n'y a pas de solution idéale et personne ne sait vraiment comment faire. Il n'y a pas de guide pour ça. Mais je pense que donner la parole à des gens qui sont qui ont l'éthique à cœur, c'est quand même ça nous aide. Et donc Benoît. Bon, il me dit que pour lui, l'inclusivité, ça ne se limite pas à la couleur de peau. Et que pareil, chez Bonne Gueule, il y a toujours eu des gens de nationalités différentes, avec de religions, d'orientation sexuelle. Et alors, eux, pour les recrutements, d'ailleurs, comme chez MAD, ils ne regardent ni les noms, ni les prénoms, ni les adresses. Aucune discrimination sur les lieux d'habitation, même pas les études. Ce qui compte, c'est les expériences professionnelles et juste ça. Donc, il me dit, nous, ça ne nous dérangerait pas de recevoir des CV sans nom, sans adresse, sans âge. Ça ne changerait rien au niveau du recrutement. Il y a beaucoup d'ailleurs de femmes, il me disait, qui occupent des gros postes chez Bonne Gueule. Donc, chez eux, la question ne se pose pas parce que c'est pareil. Pourquoi ? Mais parce que c'est très fortement porté par Geoffrey et Benoît, qui sont là, qui sont vigilants de tous les instants. Et lui, il est partisan, Benoît, il me disait, d'avoir une culture d'entreprise très forte sur les questions d'ouverture, de tolérance. Et il me dit... c'est plutôt une culture d'entreprise plutôt que des process et des quotas. Sauf que, il pose la question, peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit plus. En tout cas, eux, quand ils ont eu un collaborateur qui a fait des blagues limites du point de vue racisme, il l'a viré sec dès qu'il l'a su. Tu vois, parce qu'il voulait envoyer un message très clair à ses équipes. Il m'a dit d'ailleurs, l'édito de Bonne Gueule a été dirigé pendant 3 ans par un jeune Algérien, ouvertement gay, que Bonne Gueule a aidé à changer de prénom du point de vue administratif pour qu'il puisse tourner la page avec ses parents qu'il avait chassés de chez lui. Et donc, tu vois, c'est par des actes comme ça que l'équipe sait à quel point ils sont ouverts en termes de diversité. Donc, il n'y a pas de procédure écrite, rien de formalisé, mais ils veillent au grain. Il me dit, bon voilà, c'est l'éternel débat entre posture versus process. Et lui, il est plutôt du côté de la posture comme Ning, mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu peux plus gérer toi-même les recrutements, à partir du moment où ça te dépasse, à partir du moment où tous les gens ne sont pas rassemblés sur le même lieu physique aussi, c'est intéressant de l'écrire et peut-être même de l'annexer au contrat quand tu embauches. Enfin, moi, c'est mon parti pris, je le dis. En ce qui concerne la communication autour de Black Lives Matter, dit que ses clients, lui, sont pas très sensibles, en fait. Enfin, pas très sensibles. C'est pas là-dessus qu'ils sont le plus sensibles. Ils sont plus sensibles aux sujets environnementaux. Donc, aux pays de production, aux actions pour le Covid, tout ce cas. Et que lui, en tant que marque française, justement, et qui prend la parole déjà très fortement sur ce genre de sujet, c'est de pas prendre la parole. Et laisser les marques pour qui ça fait vraiment sens, la prendre. Donc, lui, c'est pas senti légitime. Et il dit, et ça c'est vraiment intéressant et je voudrais vraiment le porter à la réflexion, que si tu es une marque française qui clame l'inclusivité, qui montre des mannequins colorés, enfin de toute mosaïque dans ses campagnes de pub, pose-toi la question, est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu as communiqué quand Cédric Chouvial, tu te souviens, en France, est mort exactement dans les mêmes circonstances d'un plaquage ventral en janvier dernier? Est-ce que tu l'as fait? Alors, pourquoi tu le fais quand c'est les États-Unis? Alors, il dit, il faut pas brailler avec la meute, quoi. Si t'es une marque haut de gamme française qui met juste un carré black de temps en temps pour se donner bonne conscience, c'est pas sincère. Il aurait fallu parler de Cédric aussi en son temps.
Bah ouais, je suis bien d'accord.
Ouais. Plutôt que de réagir en le faisant parce que tout le monde le fait sur le coup, sans que ce soit lié à quoi que ce soit. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre le temps, justement, c'est quand la... En temps sensible, la communication sensible, c'est bien ça. C'est est-ce que tu réagis vite fait sans te poser de questions ou est-ce que tu as pris le temps de bâtir un socle de valeurs suffisamment fort, de te questionner au long cours sur qui tu es, qui est ta marque, à quoi elle doit ressembler et quand elle est légitime de prendre la parole dans l'espace public et surtout sur les questions politiques et sociales. Si tu le fais par réaction et que tu n'as pas réfléchi à ces questions, c'est dangereux. Si tu le fais en conscience, comme les marques que je te cite, il n'y a pas de problème, tu peux justifier, tu vois. Après, que tu le fasses en tant qu'individu, c'est autre chose. Tu aurais pu, à titre de Adrien, mettre ton carré noir, comme moi je l'ai fait, parce que je me suis dit, en tant que moi-même, j'ai envie de le faire. Mais je ne l'aurais pas fait en tant que grande alchimie. Parce que je me suis posé les questions aussi de mes propres recrutements, de mes propres équipes et des freelances qui sont autour de moi. Et qu'effectivement, tout à chacun, on doit faire des alignements et on doit réfléchir à qu'est-ce que... bon, j'ai pas une entreprise avec 1000 personnes, mais si un jour j'ai cet genre d'entreprise, c'est maintenant que je dois me poser les bonnes questions pour pouvoir réagir en temps de crise. Donc, c'est justement tout ce discours de comment on réagit en temps sensible. Ben, en fait, on réagit parce qu'on a anticipé ce genre de choses et qu'on a un socle de valeurs fort. Donc, ce qui, pour reboucler avec l'interview de Benoît, justement, il a été, certains clients ont demandé pourquoi il réagissait pas. Et je vais te lire, il a eu la gentillesse de m'envoyer un des messages réponse. Et donc, je vais le lire in extenso. Bien sûr qu'on est touché et révolté de ce qui se passe, mais optimiste sur la prise de conscience en cours. On est super heureux d'avoir une équipe comprenant différentes nationalités, ethnies, religions, sexualités, c'est important à nos yeux. Encore une fois, je suis très triste de ce qui s'est passé, qui révèle un problème bien profond, et je ne me sens pas légitime pour l'interpréter et je ne voudrais pas être opportuniste. Car parfois, je trouve que ça manque un peu de sincérité et que certains acteurs du marché ont mis un carré noir pour faire comme les autres, parce qu'il le faut, sans que ça amène des actions par la suite. Moi, je ne me reconnais pas dans ce genre de pratique. Et il faut différencier bonne gueule en tant qu'acteur économique et le citoyen individuel les citoyens individuels qui la composent. Ça n'est pas parce que bonne gueule ne prend pas la parole sur ce sujet que les personnes ne sont pas touchées par ce qui se passe, loin de là. On s'est posé beaucoup la question de ce qu'on pouvait dire, mais très franchement, je préfère laisser s'exprimer les voix de ceux qui comptent vraiment, comme John Boyega, et c'est pour cette raison que j'ai annulé mon live de vendredi, la première semaine de juin. Je veux laisser la parole à ceux qui connaissent le sujet et qui peuvent éduquer, plutôt que de mettre en avant bonne gueule. Bonne gueule prend la parole autour de tout ce qui touche à l'impact de la mode, au pays de production, à l'environnement et à la sauvegarde du savoir-faire. Pour donner une image, il me dit, donc j'ai fini la citation, il dit on est comme des vignerons, on se bat pour tirer la qualité du marché vers le haut. Donc nous, on est sur la sensibilisation au savoir-faire, au point sur le savoir-faire qui sont en train de disparaître, faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'avoir de garder ces savoir-faire et se battre. Plus pour ces combats-là. Donc, c'est ça qui compte pour eux. Et puis bon, pour finir, j'ai aussi parlé à Alexandre, donc le CMO de Airpure. Je voulais lui parler parce que Airpure, c'est typiquement une jeune marque, de jeunes entrepreneurs. Ils sont encore à Station F. C'est une boîte qui se veut qui va vendre à l'international. Et je voulais voir comment on réagissait dans une boîte plus jeune. C'est qu'ils sont complètement à l'aise avec le sujet, qui n'est pas vraiment un sujet pour eux. Parce que, pareil, ils ont une équipe internationale et que je pense que le fait que, aussi dans les écoles, maintenant, on favorise les échanges internationaux, ça joue beaucoup aussi. Donc, là-dessus, pareil, la prise de position très claire. Leur valeur, c'est protéger les personnes contre la pollution de l'air et faire du bien au quotidien. Donc, ils sont pas dans ce sujet de Black Lives Matter et c'est pas du tout, c'est vraiment pas une prise de tête chez eux. Hein, tu vois, c'est ok, nous, fin de l'histoire, quoi. C'est pas notre sujet. Donc, pour essayer de rassembler un peu tout ça, je pense que si une marque, en tant que marque, on doit faire attention à ne pas activer des contenus autour de causes qu'on n'a pas l'habitude de soutenir, sans risquer de paraître superficiel et opportuniste. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Si c'est ton ADN, si tu as l'habitude de prendre la parole sur ces sujets, faites-le. Si c'est pas du tout votre culture, évitez de le faire. Autre chose, la culture d'entreprise, c'est la manière dont on est tous différents. C'est pas la manière dont on est tous les mêmes. Et la culture cette culture d'entreprise, c'est un levier, c'est un vrai levier qui attire les bons employés et qui permet de faire croître une entreprise à long terme et prospérer. Voilà. Donc, autre chose, si vous tweetez sur le changement que vous voulez voir advenir dans le monde, faites le chemin à l'intérieur de votre entreprise avant de tweeter. Voilà. Voilà, c'était ma petite conclusion.
Balaye devant ta porte avant d'aller balayer chez les autres. Et exactement. Bon, bah c'est plein de bon sens tout ça quand même. Hein. Mais ça méritait quand même de... Ça méritait un épisode parce que franchement, c'était quand même un... C'est quand même un sujet hyper sensible, quoi, c'est tout.
Il y aura forcément des choses à ajouter, des gens qui seront d'accord avec moi, pas d'accord avec ce qui a été dit. L'idée, c'est de réfléchir ensemble hein, et vraiment de continuer la réflexion parce que, comme tu le disais en introduction, on n'en est qu'au début de ce genre de réflexion à avoir. Et progressons ensemble sur ces sujets. En tout cas, moi, je voudrais vraiment remercier Ning et toute l'équipe de typologie, Emine, Margot, évidemment Benoît et Geoffrey chez Bonne Gueule, Alice chez Mad.com et Alexandre chez Airpure, parce que ils m'ont répondu vraiment avec toute transparence, tu vois. Et là encore, on voit que les valeurs sont vraiment alignées et ça fait vraiment plaisir.
All right, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Viviane. C'était bah, comme d'habitude, toujours aussi cool et toujours aussi intéressant et intelligent. Merci et je te dis à très très vite. Salut.
À bientôt. Ah ben pour un sujet peut-être plus marketing la prochaine fois, on verra. Selon l'actualité.
Entendu. Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.